Super. Tellement content d'être avec vous, l'occasion de se revoir, d'être ensemble, de vivre des temps forts à la présence de Dieu. C'est pas pareil d'être là, juste dans son salon, dans sa voiture ou dans sa chambre, en train d'élever le Seigneur, que de vivre ensemble. Il y a une dimension collective. C'est ça que le Seigneur, il aime, quand on vit cette famille, on loue le Seigneur ensemble. Et il y a quelque chose, et c'est glorieux de le vivre ensemble. Et comme ça a été dit ce matin, je vais aller dans la suite de mon message, vivre sa destinée d'il y a un mois. Et comme ça a été dit, vous n'allez pas du tout être perdu. Ce n'est pas comme ces épisodes, si vous n'avez pas vu le début, vous êtes fini juste. Et voilà, c'est, vous êtes perdu à jamais presque. Par contre, je vous encourage sans autre, même si vous allez pouvoir raccrocher les vacances sans aucun souci, n'hésitez pas à aller sur le site. Moi, souvent, j'aime bien réécouter les messages. Que j'ai entendu ici encore une autre fois, des fois il y a quelque chose d'autre qui touche nos cœurs, un autre éclairage, des fois ça assoit, ça établit des choses en nous, donc n'hésitez pas aussi à écouter, si vous l'avez déjà entendu ou pas, cette première partie. Et la première chose qu'on a pu voir, c'est que Dieu ne cherche pas premièrement des personnes qui accomplissent une mission, qui le servent, mais qu'avant tout il cherche des amis. Et c'est même pour ça qu'il nous a créés. Des premières slides que j'avais pu mettre, c'est que le premier appel de ta vie, ce n'est pas ce que tu es appelé à faire, mais c'est qui tu es appelé à être. On a vraiment pu aller là-dedans, et pour moi c'est tellement important aussi de le dire aujourd'hui. Dieu désire des amis pour être avec. Et de ce être avec, va naître un faire avec. Va naître un faire avec. Il va déposer dans nos cœurs un rêve, un désir, une passion. Et un des points sur lesquels j'ai terminé aussi, la dernière fois que j'ai prêché sur ce sujet, et je vais rebondir là-dessus ce matin justement, ou aller plus loin, pour vraiment ensuite rentrer dans la deuxième partie de ce que j'ai à cœur aussi de dire, c'est quand Jésus est allé dans le temple. Il est allé dans le temple et il a chassé les vendeurs, et d'ailleurs aussi les acheteurs de ce qu'il a mis, et il renverse les tables des changeurs de monnaie, les sièges des vendeurs de pigeons, et c'était pas, comme je l'ai dit, je suis convaincu, un pétage de plomb de Jésus, mais c'était une action intentionnelle de Jésus. Parce que quelque part, il n'y avait rien de mauvais en soi au départ, même s'il dit que c'est devenu une caverne de voleurs. Mais on vendait les pigeons, les colombes, à ceux qui ne pouvaient pas se payer un plus grand sacrifice. On voit dans Jean 2, 14, il est précisé qu'en plus des changeurs de monnaie, et des vendeurs de pigeons, de colombes, il y avait aussi des vendeurs de bœufs et de brebis. Tout ça, c'est pour faire des sacrifices. Et puis pour pouvoir s'acheter une bête, il faut de la monnaie, donc il fallait changer de la monnaie. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y avait ça aussi dans le temple. Donc ce n'était pas une scène atroce, finalement assez logique pour un vécu de temple de l'époque. Donc ce n'est pas des choses mauvaises que Jésus a chassées, mais des bonnes finalement, ça permettait de faire des sacrifices. Mais il a fait ça pour du meilleur. Il a fait ça pour du meilleur, afin que le temple entre véritablement dans sa raison d'être et dans sa destinée. Et il leur dit... Il est écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la destinée du temple était d'être une maison de prière avant tout, c'est-à-dire un lieu de présence de Dieu, un lieu où Dieu réside, un lieu où Dieu agit. Et Jésus avait en lui cet esprit de réveil qui était là, et il ne s'est pas laissé endormir par le ronron des habitudes, avec ses sacrifices, et finalement, on en fait toute une histoire où on choisit ses bêtes. Si on n'a pas trop d'argent, on prend la volaille, on prend plutôt le pigeon. Sinon, une autre fois, on prend ceci, cela. C'est devenu tout un bins. Et lui, il a dit, mais en fait, le véritable appel de ce temple, c'est d'être une maison de prière. Et la suite dans Jean 2 nous dit, les disciples reconnaissent ce passage, où il a dit, le zèle de sa maison, le zèle de la maison dévorait Jésus. Il était saisi par ce zèle pour sa maison, pour que sa maison retrouve vraiment sa destinée, une maison de prière, une maison de présence de Dieu, une maison d'action de Dieu. Et je crois que c'est notre appel premier à nous tous, c'est d'être ces temples, parce qu'aujourd'hui c'est plus un temple fait de pierre, le temple c'est toi et moi. C'est pour ça que c'est pas un problème ici, les soirs de semaine, ils regardent des matchs, ils boivent de la bière, et encore tout cas, on sentait l'odeur ce matin quand on est venu, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ta vie, ma vie, soit un temple où le Saint-Esprit réside, avant la pierre, avant le décor. C'est notre appel premier. Être ces temples du Saint-Esprit. Et que ma vie soit vraiment un de ces lieux, un lieu où Dieu réside, où Dieu agit. Et ce matin, moi, je sens vraiment ce zèle de Jésus, ce même zèle de Jésus pour son Église, pour ma vie, pour ta vie qui est dévorant. pour que ma vie, pour que l'Église soit vraiment dans cette destinée pour laquelle elle est vraiment là. Je sens ce zèle, ce feu brûler. Et avant de poursuivre, j'aimerais vraiment prier parce que ce matin, on n'est pas là premièrement pour entendre des informations, un message ou bien un sens qu'on n'avait pas encore entendu sur un verset ou une interprétation d'un premier, c'est de se laisser toucher par Dieu. Et Saint-Esprit, je te prie ce matin, merci parce que tu étais puissamment là pendant ce temps de louange, mais je te prie Seigneur, ce zèle qui était là, qui dévorait Jésus, à force qu'il a agi dans le temps pour que tu te manifestes. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes allumer aussi dans ma vie, dans notre vie, dans cette Église, une passion, un zèle pour ta maison. Un zèle pour que tu agisses. Hein. Et dans ta maison, c'est un lieu de prière, on l'a vu, on va le voir, un lieu d'action, des choses se passaient. Et Seigneur, moi je désire plus de ta présence, plus d'action de ton esprit. Et je te prie, Seigneur, de mettre en nous ce zèle pour être vraiment dans ce pourquoi on existe sur terre. Qu'on soit vraiment dans notre destinée. Seigneur, ce n'est pas juste des choses mauvaises qu'on veut se priver. Il y a peut-être des choses qui sont bonnes, mais je veux vraiment aller au meilleur. Je veux vraiment aller exactement et vivre ce que tu as envie que je vive. Seigneur, on a envie de vivre en tant qu'Église aussi ce que tu as envie qu'on vive pour aujourd'hui, pour 2022 et 2023 et la suite. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire et comment? Et toujours plus de ta présence. Et je te prie, Saint-Esprit, viens nous parler au-delà des mots, au-delà des versets. Au-delà de ce qui est dit, viens Saint-Esprit presser notre cœur de ce même esprit de réveil qu'avait Jésus pour finalement rétablir la destinée du temple. Et Seigneur, que la destinée de ma vie soit aussi rétablie dans ce qui est juste et dans ce que tu désires. Amen. Amen. Parce que c'est clair que Dieu, il n'a rien contre les brebis, contre les pigeons dans le temple, mais ça prend, c'est juste que ça prend de la place. Et ça empêche le temple de vivre, je pense, à cette époque, dans la pleine mesure de ce qu'il est appelé à être, tout simplement. Et Dieu ne désire pas juste vider nos vies pour du néant, pour qu'on soit comme des saints stériles où il n'y a plus rien. Rappelons-nous, il cherche des amis pour parler, pour rire, pour être avec. C'est ce genre de relation que Dieu désire, pour agir avec nous. Et on a vu justement qu'il fait grandir en nous des désirs, des passions pour son royaume. Mais il désire qu'on puisse vraiment vivre aussi dans le potentiel que nous sommes appelés à vivre chacun d'entre nous. Et il nous a vraiment donné un exemple pour ce qui vivait sur terre, ça se passait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, naturellement là où il était. Jésus dans la vie de tous les jours. Les choses se passaient là où il était, c'était ça, le lieu de l'action de Dieu. Et je crois qu'entrer dans son appel, c'est pas quand on plaque tout ce qu'on fait pour suivre Dieu, mais c'est quand on laisse le Saint-Esprit agir en nous et par nous dans notre vie de tous les jours. C'est dans notre vie de tous les jours que le Saint-Esprit aimerait venir agir. C'est là qu'on a à être ce temple. Jésus, ce n'était pas un ermite. Il n'attendait pas dans sa grotte un ordre du Père, même s'il est dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Mais c'était dans sa vie active qu'il a agi. Comme on l'a déjà vu, le bateau coule, alors il agit dans un mariage, il manque à boire, il agit, il intervient dans une énorme réunion, il y a des milliers de gens, il n'y a rien à manger, ils peuvent pas, il n'y a pas de centre commercial tout près. Il y a de la nourriture qui est multipliée. Il agit dans la vie de tous les jours parce qu'il est cet ami du Père et qu'il incarne déjà ce temple, cette présence. Et quand Dieu, le Saint-Esprit, est dans le temple, les choses se passent. On a vu dans Matthieu 21, lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple, immédiatement, et j'aime le redire, le verset qui suit, il est mis que des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et de l'espace qui est fait, la guérison, le surnaturel se manifeste. C'est là que le royaume de Dieu est en action. Le surnaturel se manifeste. C'est là que, si je peux me permettre de dire comme ça, le temple rentre dans son appel. Il se vit dans le temple, ce pourquoi le temple existe. Parce qu'il a été désencombré. Et ce matin, ce n'est pas que je n'ai pas eu une nouvelle idée pour un autre point, et puis que je prends maintenant du temps, redisant une part de ce que j'avais dit il y a un mois. Mais ça presse dans mon cœur. Je sens que le Saint-Esprit veut presser dans ce sens-là aussi avant qu'on aille plus loin. C'est vraiment une intention de Dieu. Il est là, et quand on laisse la place, on le laisse agir en nous, on ne désencombre pas juste les choses mauvaises qu'on essaie de se débarrasser, mais même des fois juste des bonnes choses, mais qui prennent la place, Dieu commence à agir. C'est dans le temple, ce n'était pas juste des abominations, c'était pour des sacrifices, mais quand il y a l'espace qui a été fait, le miraculeux est venu. Et je désire vraiment que le Saint-Esprit puisse venir toucher ma vie, mon cœur, pour que ma vie soit désencombrée, pour que je puisse vraiment vivre ma destinée, entrer vraiment dans l'appel qu'il y a sur ma vie, que tu puisses vivre l'appel qu'il y a sur ta vie, que Dieu a prévu pour nous. Et dans le temple, c'était immédiat. Dès que ça a été désencombré, les choses sont passées. Et je pense que Dieu habite dans chacun de nous. Et moi, je désire tellement plus encore. Moi, je ne pense pas que je suis dans le plein potentiel de ce pourquoi la pèlerine jeunesse. Et je ne crois pas que je suis encore pleinement dans mon appel. Et j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. On a envie d'y aller. J'espère que tu as envie d'y aller dans ton appel, toujours plus. Dans le potentiel de ce pourquoi tu as été créé. Et en tant qu'Église, on n'est qu'au début du début. Et j'ai envie qu'on puisse aller dans ce pourquoi Dieu a vraiment parlé à nos cœurs et pourquoi on se réunit ensemble. Il a une destinée, il a un appel, il y a quelque chose. Et je désire aménager ma vie pour que le Saint-Esprit puisse agir et qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit nous titiller. Et quand il nous titille, qu'il vient bouger les choses, qu'il vient mettre des choses en place. Là, il y a des fois des hasards avec des grands dés finaux qui se passent. Et pour donner un petit témoignage, il y a quelques semaines, j'ai raconté juste une fois dans notre groupe ressources, mais il y a quelques temps avec Diane, ça devait être vers fin septembre, fin octobre, on s'est dit, tiens, on va aller faire deux pas au bord du lac. On n'habite pas loin du lac. Ça va nous changer un peu les idées. Et puis, ben, c'est pas Dieu qui m'a dit, David, va au bord du lac. C'était pas comme ça, mais je me suis dit, un petit peu poussé, mais je sentais, allez, on y va, on va au bord du lac. Et puis quand on arrive, proche du lac, on voit notre ponton. Là, j'ai même l'image. Voilà. Ça, c'est à moi. C'est quand on marche 5 minutes, on arrive là, et c'est pas un endroit où on peut se parquer, il n'y a pas beaucoup de gens, surtout des gens qui habitent par là. Et puis voilà, quand on arrive, il y a juste quelqu'un qui est déjà au bout. Je me dis, mince, il y a déjà quelqu'un. Et puis qui est notre place. Souvent, je dis ça pour rire, tiens, ils ne savent pas que c'est chez nous ici, qu'est-ce qu'ils font là, les gens. Et on s'approche, et puis la personne qui est assise tout au bout de ce ponton, elle est en train de téléphoner, on entend assez bien ce qui se dit. Et puis, moi, là, je me change pour aller me baigner. Vu que c'était un peu en fin de l'été, il faisait un peu froid, il y a moi qui suis allé ce jour-là. Il faut bien s'exercer pour les baptêmes d'hiver. Et puis, alors, j'allais me baigner. Ça dure un moment, hein, d'ici que vous arrivez à Yverdon, puis que vous revenez. Donc, après, je reviens, parce qu'on est vraiment tout au bout du lac. Là, je reviens, on sèche, il y avait encore un peu de soleil. Et puis, on s'asseye sur le caillou qui a un petit peu mangé, là, par l'image, mais tout à gauche. Au soleil, permet de se sécher, on discute ensemble, ça permet de débriefer de la journée, de décompresser, etc. Et là, il y a cet homme qui est tout au bout, qui parle au téléphone, et on entend vraiment ce qu'il dit, mais on s'est dit, de toute façon, on va bientôt terminer, puis il n'y a pas trop... Voilà, on est là. Et puis, on n'a pas vraiment tendu l'oreille, on a discuté ensemble avec Diane, mais on a entendu qu'il parlait, puis il avait l'air de pas très bien aller, qu'il était à bout, qu'il était fatigué, qu'il n'en peut plus, puis on entend. Puis, moi, je me suis dit, mais on va pas tout à coup maintenant, je vais pas me changer, reprendre nos affaires, je vais dire au revoir, bonne soirée. Et puis, on remonte, quoi. Puis, la vie continue. C'est pas possible. Je me suis dit, il y a quelque chose ici. Et il finit son téléphone, puis il se tourne vers nous, puis il dit, je suis désolé. Ça a dérangé mon téléphone. Il a dit, mais je vais pas très bien. Et puis, là, on a senti que c'était le moment. Et on a pu parler ensemble, puis on a dit, mais est-ce que vous êtes croyant? Il a dit, oui, je suis croyant, mais en Jésus-Christ. Il a dit, ben moi aussi. Et on a pu partager, on a pu prier, vraiment un long partage, un long temps de prière. Il a pleuré, c'est devenu un truc de fou, quoi. Il y a même des gens qu'on connaît du village qui sont venus se baigner, nous ont juste un peu laissés, ils ont vu quelque chose se passer. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le gars nous raconte, que j'avais donc jamais vu, hein, qui ne vient pas de là, il est déjà venu le jour avant, au même endroit. Il n'en pouvait tellement plus. Il s'est couché, comme ça, face au sol, et il a crié au Seigneur. Un peu comme un appel ultime, il a dit, Seigneur, si tu existes, il faut que tu te manifestes. Envoie des anges, fais quelque chose, je suis à vous. J'en peux plus. Un peu de ses prières de dernier recours, comme ça a été dit un peu avant. Pour lui, c'était la fin, il n'en pouvait plus. Et là, quand on part ensemble, j'ai dit, ben, c'est aujourd'hui que Dieu vous répond. Il vous a répondu aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui est venu du ciel, mais on est là pour vous maintenant. On est en train de parler avec vous. Il a entendu votre cri. Il a entendu ce hurlement de votre cœur, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes à la limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ensemble, ici, les trois, assis sur ce ponton, en train de parler, en train de prier. J'ai dit, c'est un rendez-vous de Dieu pour votre vie. Et c'est maintenant qu'il répond. Vous avez crié à Dieu hier. Aujourd'hui, il vous répond. Et c'était puissant. On a imposé les mains. Ça a duré plus de trois quarts d'heure. C'était vraiment un truc. On avait la chair de poule. Dieu était en train vraiment d'agir, quoi. On est remonté ensuite ensemble, on s'est changé nos contacts, qu'on a gardé jusqu'à des échanges encore jusqu'à ce jour. Mais ça a fait tellement bizarre. Ça n'a pas fait bizarre juste de parler du Seigneur ou de prier pour quelqu'un. Mais quand vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous êtes en train de faire exactement ce pourquoi Dieu vous a créé ce jour-là, et que vous êtes le maillon, vous êtes juste la réponse que Dieu utilise pour quelqu'un qui a crié à Dieu de toutes ses forces et qui n'en peut plus. Et puis qui dit, si tu m'entends, Seigneur, fais quelque chose. Puis le lendemain, il envoie un couple de pasteurs prier pour lui à cet endroit-là. Il aurait pu envoyer n'importe qui, toi, moi, mais vraiment. Et ça, c'est vivre sa destinée. C'est un instant de destinée. C'est un instant de destinée. C'est de savoir que Dieu est en train de répondre à cet homme et qu'un miracle est en train de se passer. Pour lui, c'est un miracle qu'on soit juste là à ce moment-là. C'était complètement fou. Et on réalisait que ce n'était pas juste un petit moment où on encourage quelqu'un qui a de la peine. C'est vraiment un événement vraiment très fort de sa vie. Et ce n'était pas un oracle du Très-Haut où Dieu m'a dit, mais David, mon enfant, si le temps revêt, ton vêtement descend, le chemin septentrional jusqu'à la rive. Et tu verras un homme qui est dans le besoin, tu crieras pour lui, il va te trouver. Ce n'était pas ça. Mais Dieu, il fait habiter en nous naturellement. N'est-ce pas, c'est même pas qu'on a une pensée. Bon, Dieu est tellement en nous. Tout à coup, tu fais des choses, tu es juste au bon endroit, tu es juste inspiré dans le naturel. Jésus vivait les choses dans le naturel. Juste d'être au bon endroit au bon moment pour qu'on vive ce pourquoi on est né ce jour-là. Et je crois qu'entrer dans son appel, c'est vivre les rendez-vous que Dieu a pour nous, mais jour après jour. C'est pas juste un immense truc qu'on se dit, oh, ça, c'est vivre son appel, c'est quelque chose d'énorme. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Mais c'est déjà vivre chaque jour les rendez-vous que Dieu a pour nous et d'être disponible. Et moi, j'aimerais vivre tellement plus de ça et que Dieu se manifeste puissamment. Et c'est ce qui s'est passé naturellement dans le temple lorsqu'il a été désencombré et qu'il est venu cette maison de prière. Et pour clore ce point, on poursuit avec ce passage d'Hébreux 12 qui dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une nuée de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Et ce passage nous dit qu'on est entouré de témoins, et l'auteur vient d'énumérer le chapitre d'avant, dans Hébreux 11, il vient d'énumérer toute une liste qu'on appelle les héros de la foi. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut se laisser encourager par ces gens, par ces personnages, ces hommes et femmes de foi dans la Bible qui ont vécu des choses fortes, qui sont entrées dans le rappel, on en parlera après, on reviendra sur ces personnes, se laisser encourager par ces personnes qui sont rentrées dans le rappel, mais de rejeter aussi de toutes parts ce qui nous empêche d'avancer, et de rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et ce n'est pas juste de rejeter des saletés, des impuretés, des choses qui préservent moi de ce mal, Seigneur, ce n'est pas juste ça. Le mot péché, comme on l'a déjà plusieurs fois entendu, c'est de manquer le but. Et je crois que manquer le fait de vivre notre destinée, manquer le fait de vivre notre appel, c'est quelque part ça déjà le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est de manquer le but de ce que je dois vivre. Et dans le temple, c'était une bonne chose pour les sacrifices. Mais en voyant des exemples bibliques de personnes qui ont réussi, qui sont vraiment rentrées dans leur destinée de vie, ça nous motive aussi, nous, à rentrer dedans et à rejeter ce qui viendrait comme un peu parasiter notre vie. C'est toute une autre manière aussi de voir ce verset, de rejeter tout péché qui nous enlace si facilement. Si facilement, on peut passer à côté, on se laisse distraire et on est en train de vivre finalement autre chose, qui n'est peut-être pas si mal, mais... Et ce mot « si facilement », c'est vraiment... C'est comme si, ça veut dire, si tu ne fais pas gaffe, ça vient. Si tu ne fais pas attention, voilà. Au bout d'un moment, si un enfant qui marche à côté d'une flaque, si tu ne fais pas attention, tu vas être éclaboussé. C'est un petit peu ça. Si on ne fait pas attention, on est vite... On passe à côté de notre vie, quoi. C'est ça que ça veut aussi dire. Et le mot qui nous entoure si facilement, qui nous cerne, c'est ce mot grec « euperistatos » qui veut même dire « assiégé ». Tout à coup, on est comme assiégé. Si on ne fait pas gaffe, on est assiégé. Et tu es assiégé par des choses qui vont te faire manquer le but de ta vie, de ton appel. Et quand tu es assiégé, en fait, tu t'entoures de toutes parts, tu es cuit, quoi. Et c'est ça que ça veut dire. Donc une fois qu'on fait de la place dans notre vie, on va pouvoir aussi voir les bonnes choses. C'est comme les forestiers. Pour qu'une forêt, elle devienne selon l'idée qu'ils ont de cette forêt, mais ils vont la dépouiller. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils coupent tous ces arbres? Mais ils vont ôter des bons arbres pour permettre à la sorte d'arbres qu'ils aimeraient pour cette forêt de pousser et de se développer. Pour que ces arbres ils puissent prendre de l'ampleur, Il faut de l'espace. Par exemple, une chênaie avec plein de chênes ou une forêt avec des hêtres, mais ils vont ôter les noisetiers ou enlever les épicéas, ou au contraire, s'ils veulent une forêt qu'avec des épicéas, ils vont enlever les autres arbres et ils vont laisser de l'espace pour que ces arbres puissent avoir de l'espace et grandir. Ils vont agir en conséquence. Et c'est exactement l'image que Dieu veut pour nous, pas, non pas une razzia pour enlever toutes les bonnes choses, mais pour permettre à ce que Dieu a planté dans notre vie de pouvoir grandir et prendre de l'ampleur. Et les beaux arbres, ils seront, pour reprendre ce mot, eupéristatos, ils vont être enlacés, encernés, assiégés, ils ne vont pas pouvoir s'épanouir si on ne fait rien de particulier, s'il n'y a pas une intention. Ça va tout de suite nous envahir. Si facilement, cernés, enlacés, remplis. Et c'est plus difficile de décoller et de rentrer dans notre destinée lorsqu'on laisse tout ça simplement venir au gré de notre vie. Ça pousse, quoi, naturellement, si on n'est pas intentionnel. Il y a plein de bonnes choses qui viennent dans notre vie. Puis on est là, puis on n'a toujours pas décollé. On est là au milieu. Et ce désencombrement dans notre vie, ça va permettre à ce dont on parlait aussi il y a un mois, c'est-à-dire une passion, un rêve que Dieu a déposé dans nos cœurs, de pouvoir se développer. Et une forêt, avant d'avoir un appel spécifique, parce que des fois c'est une forêt de bois de chauffe, une autre fois c'est peut-être pour faire des meubles, ou bien c'est, on parlait l'autre jour dans les médias d'une forêt d'épicéas dans le Jura, c'est des arbres pendant 300-400 ans pour en faire des instruments de qualité. Donc je veux dire, les forestiers sont vraiment intentionnels sur des générations pour faire des bons arbres, du bon bois. Donc il y a des appels spécifiques de forêt, mais il y a aussi un appel de base. T'abriter une multitude de vies, d'animaux, puis de joggeurs du dimanche. Mais dans notre vie, on a tous aussi un appel qui nous est propre. Par contre, on est aussi investi d'une mission de base. Et déjà rentré dans notre appel de base à chacun, c'est déjà un beau programme. Et comme on a vu être les amis de Dieu, le but de Dieu étant de déverser son esprit sur chacun, sur toute chair, et nous d'être des temples, d'être sa bouche, ses mains, que le Saint-Esprit qui vit en nous puisse s'exprimer, qu'il puisse avoir de la place en moi, qu'il puisse bouger. Peut-être qu'après le repas de Noël, il y aura plus de place en moi pour bouger, je sais pas, façon de parler. Mais vraiment, avant qu'on rentre dans un appel spécifique, qu'on devienne des spécialistes, il y a ce mandat général que Dieu a donné à chacun, de faire des disciples, prêcher la bonne nouvelle, d'imposer les mains aux malades, de chasser les démons, d'amener la vie, de servir, d'aider les gens autour de nous. Enfin, voilà, la mission, elle est vaste. Et Dieu nous a créés aussi chacun différemment, avec aussi des dons, des couleurs, des forces différentes. Mais si on reprend le texte de base, qu'on a vu le fondement même qui nous a, sur lequel je suis venu pour parler que Dieu voulait qu'on soit ses amis dans Genèse 1, 26, il est dit « Faisons les êtres humains à notre image, qui nous ressemblent, vraiment. » Puis après, il est mis qu'il domine sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, pardon, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent. Puis ensuite, verset 28, « Reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Et on a déjà vraiment développé, il y a un mois, le fait d'être ami de Dieu, vraiment que Dieu cherche quelqu'un qui lui ressemble. Mais je crois que son but, ce n'est pas juste d'avoir des amis, pour avoir des amis de compagnie. Il nous a créés avec un mandat. Et lorsqu'il est mis dans la Genèse, il est mis que ce mandat est de dominer la terre. Alors on n'est pas tous appelés à le prendre au propre, hein, d'être des gardiens de zoo, des paysagistes. Ce n'est pas ça de dominer juste la planète terrestre. Mais c'est un concept, c'est une idée de Dieu de dominer, d'aller de l'avant, c'est-à-dire de régner. Et aujourd'hui, son règne, au-delà du jardin, des arbres, des petites fleurs, il y a ce côté de régner sur terre et de se multiplier. Mais dominer, c'est déjà ne pas subir. C'est déjà ne pas subir. Régner, c'est déjà ne pas juste subir ce qui arrive, ce qui vient. Et c'est ce mot hébreu « rada » qui veut dire gouverner, avoir la domination, fouler aux pieds. Faire dominer, même racler, d'où l'expression fiché de racler, non. Mais ce mot, on le voit, il est aussi utilisé par exemple dans Juges 5, 13, où il est ce même mot, dominer, est traduit par le fait de triompher et d'être encore être dans la victoire. Ou dans le psaume 10, Rada, il est mis, mais domine au milieu de tes ennemis. Donc on voit, c'est un terme, en fait, c'est une posture, c'est un état d'esprit. Et on aura tous des circonstances plus ou moins favorables selon les saisons de notre vie. Et on peut vivre les mêmes choses en subissant tous les éléments qui arrivent, ou alors des fois aussi en les dominant, c'est-à-dire en devenant intentionnel, sachant ce que l'on veut, sachant dans quel sens on veut aller, que les circonstances soient favorables ou non. Dans la forêt de nos vies, il vient pousser plein d'arbres, des bons, des moins bons. Et je crois que dominer dans le sens de ce mandat que Dieu nous donne ici, dans notre mission sur Terre, c'est d'être intentionnel pour ce que Dieu a planté dans nos vies, que ça puisse avoir de l'espace et que ça puisse grandir et que ça puisse se développer et que les richesses qu'il t'a données, elles puissent se manifester. Et on peut vivre notre vie soit comme un livre qu'on lit, soit comme un livre qu'on écrit. Tu peux vivre ta vie soit comme un livre que tu lis et tu découvres chaque fois qu'est-ce qui va bien arriver à la prochaine page, au prochain chapitre, ou comme un livre que tu écris. Et moi, j'ai envie d'écrire le livre de ma vie avec le Seigneur, bien sûr, et pas juste prendre des éléments et subir ma vie en voyant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et je crois que c'est ça, cette posture aussi de dominer, d'aller de l'avant, de régner. Et Dieu nous donne de l'autorité et de l'audace d'écrire nos vies et les différents chapitres de nos vies, que les circonstances soient favorables ou défavorables. Quel que soit le décor, Dieu désire qu'on puisse être intentionnel. Et on verra plus tard dans la liste des héros de la foi d'Hébreux 11, du chapitre juste avant, qu'il y a beaucoup de circonstances qui ont été défavorables pour des hommes, des femmes, et malgré tout, ils vont dans le rappel. C'est exactement ça, la posture et l'action de Jésus dans le temple. C'est pas juste un énervement, mais il ne veut pas juste subir d'être envahi par des choses qui prennent trop de place et qui empêchent le temple de vivre cette vie de prière, cette vie de présence de Dieu, et du coup aussi de se naturel et miraculeux. Et si c'est bien un mandat qui nous est donné, j'insiste là-dessus, mais j'en suis convaincu, c'est qu'on n'entre pas dans sa destinée en étant passager des circonstances, puis on verra bien où ça mène, mais en étant comme le conducteur, en étant intentionnel, en prenant des choix en fonction de ce que Dieu met dans notre cœur, et en se donnant les moyens pour y arriver. On parlait il y a un mois des gens comme Federer et autres qui ont dû être sacrément intentionnels pour arriver à ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans leur enfance, leur jeunesse, leurs loisirs, leur discipline. Ils ont dû être intentionnels et ça a eu un impact énorme. Vous n'allez qu'à voir rien que quand Federer il arrête sa carrière, même l'équipe de foot perd avec un score de tennis après. Donc, vous imaginez. Hein. Il faut être intentionnel, il faut se projeter, il faut y croire, il faut oser, il faut se lancer. Et dans Hébreux 11, on voit la liste de tous les hommes et les femmes qui ont eu la foi. C'est cette nuée de témoins dont il est question dans Hébreux 12, et on utilise vraiment souvent ce chapitre pour parler de la foi. La foi, et c'est bien, c'est juste, mais pour moi c'est aussi un chapitre qui nous parle de ceux qui sont vraiment rentrés dans le rappel et qui l'ont cru. Parce que la foi, c'est le moyen qui te permet d'entrer dans ta destinée, la destinée que Dieu a pour toi, que Dieu a pour nous. Ce n'est pas juste pour être spécialiste de la foi et puis de s'amuser sur cette corde, mais c'est pour aller dans ce que Dieu nous a donné, de vivre. C'est un outil, c'est un moyen, la foi. Et dans cette liste d'Hébreux 11, on voit par exemple qu'Abel, il a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que son frère Caïn. Et il a eu la foi qu'en offrant à Dieu les prémices, les 10 meilleurs pourcents, les premiers-nés de son troupeau, ben, il y a cru. Et moi, en fait, je me suis toujours dit, mais pourquoi Dieu il a préféré cette offrande-là? En fait, moi, je crois qu'il a carrément même offert, alors que son mandat à lui, c'est d'être un berger, de s'occuper d'un troupeau qui va croître, grandir, c'est un peu ça son appel. Et lui, les premiers qui naissent, quand enfin monsieur et madame mouton ont des moutons, il fait quoi? Il les offre en sacrifice. Il croyait que Dieu allait en donner d'autres. Lui, il n'a pas l'expérience de tous les livres sur comment être un berger. C'est la première fois qu'il en voit naître et il les offre en sacrifice. Il croit que Dieu va continuer la vie, que ça va se poursuivre. Caïn, il a donné une part de sa récolte. Il a cru que Dieu allait pourvoir, qu'il y en aurait d'autres, qu'il allait pouvoir mener à bien son appel d'être berger. Pardon, alors Abel, en quelque sorte, c'est le premier sacrificateur. Un homme qui entre dans son appel d'adorateur, de sacrificateur, par la foi. Et c'est par la foi qu'il est entré dans son appel, même s'il offre les premiers-nés, il avait la foi qu'il allait poursuivre dans son appel. Il est parlé de Noé dans Hébreux 11, qui a eu la foi de bâtir un bateau sur une montagne. Et c'est cette montagne-là, le mont Arara, alors que rien ne laissait présager un changement climatique qui fait que tout à coup l'eau allait monter jusque là-haut. C'est comme si aujourd'hui, ce n'était pas la commune Val-de-Rue qui avait acheté l'hôtel de la vue des Alpes, mais c'est Noé qui l'achetait pour en faire un port de plaisance, prépare les quais et tout, en sachant que tout à coup l'eau va monter jusque là-haut, puis il prépare tout, parce qu'il prépare un port à la vue des Alpes. C'est un truc un peu fou qu'il a fait. Mais par la foi, il a non seulement sauvé sa peau, et celle de sa famille, mais il est entré dans l'appel que Dieu avait pour lui et toute l'humanité. Il nous a tous sauvés, hein, Noé. Bien sûr, c'est Jésus qui nous sauve, mais quand vous arriverez au ciel, après votre mort, pour aller vers Noé, vous pourrez lui dire merci. Merci, c'est super, t'as bien fait ton bateau, t'as bien écouté, t'as fait quelque chose de fou. Il a fait... Et c'est ce pas de foi, cet élan qui lui a permis vraiment de rentrer dans son appel, non seulement de sauver sa vie, mais de sauver l'humanité, en fait. C'est parce qu'il a eu la foi qu'Abraham, il a été le père d'une multitude, puis qu'il est entré aussi dans sa destinée, dans ses promesses d'avoir une grande descendance. Il a dû avoir déjà la foi que lui et sa femme arrivent à avoir un enfant à leur âge, mais après il est mis qu'au moment où Dieu lui demande de sacrifier son unique fils, c'est comme ça que la promesse allait se mettre en place, c'est comme ça qu'il allait rentrer lui dans son appel, et que sa destinée allait il allait la vivre. Mais du coup, ça mettait par terre toutes les promesses qu'il avait, et son rêve d'avoir une famille, d'être père d'une nation, tout ça allait pas pouvoir se manifester. Parce que le seul enfant qu'il a, il va le sacrifier. Et sa destinée et même son appel allaient être détruits s'il sacrifiait son fils. Mais il est mis dans les Hébreux, justement, qu'il avait tellement la foi que si Dieu lui demandait même de sacrifier son fils, c'est qu'il allait le ressusciter après. Il avait une foi, mais folle, j'allais dire une foi de malade, comme on dit aujourd'hui. Mais il eut la foi et finalement Dieu a envoyé un bélier qui a permis qu'il ne doive pas sacrifier son fils. Mais imaginez la destinée de tout un peuple sauvé par un mouton, rien que parce que ce bélier s'est trouvé là, et ça a permis à la promesse d'Abraham de s'accomplir. On se met souvent à la place d'Abraham, qu'est-ce qu'il devait penser de sacrifier son fils, ou on se met à la place d'Isaac, qui devait se dire, tiens, il est où l'animal, c'est même dit dans la Bible, mais le bélier, là, vous y avez déjà pensé, à ce qu'il devait penser. Il a dû entendre l'appel de Dieu, tiens, monte sur cette montagne, ah oui Seigneur, qu'est-ce que je vais y faire. Tu vas sauver la destinée de tout un peuple. Ah bon, mais ça n'a pas trop de sens. Mais le mérite de ce bélier, c'est d'être au bon endroit aussi au bon moment. Même si c'était cuit pour lui après à la fin. Mais si Dieu utilise un mouton pour accomplir ses promesses et sauver la destinée de tout un peuple, il peut aussi nous utiliser, nous, pour sauver la destinée de tout un peuple, toute une région, toute une partie. Et ce que je peux dire, c'est que moi j'ai envie de contribuer à l'accomplissement du rêve de Dieu pour sauver l'humanité aussi. C'était juste une parenthèse, mais si vous suivez, si vous y pensez de plus près, c'est aussi cet agneau, ce mouton, c'est la préfiguration de l'agneau qui va donner sa vie, de ce mouton qui au final a donné sa vie à la place d'Isaac pour sauver tout un peuple. Et la Bible est quand même extraordinaire quand on réfléchit à l'extraordinaire de sens et de puissance. Mais rappelons-nous que c'est par la foi qu'Abraham il est vraiment entré au final dans sa destinée, et qu'il est effectivement rentré dans son appel. Toutes les circonstances étaient contraires. Alors non seulement ce chapitre d'Hébreux 11 parle de la foi, mais on voit surtout des hommes, des femmes qui ont un appel et qui y sont allés malgré des challenges, des défis, des difficultés, qui ont cru et qui se sont donné les moyens, qui ont même fait des folies, un bateau sur une montagne, pour rentrer véritablement dans leur destinée. Et ça c'est Hébreux 12 qui nous dit, mais quand vous regardez tous ces gens, courir vers le but, aller de l'avant. C'est ça qu'il veut nous dire, l'auteur. Et on parlait il y a un mois que le rêve de Dieu, c'était déjà il n'allait pas nous envoyer aux antipodes de ce qui vibre en nous. Mais je crois que pour aller au bout de ses rêves, il a fallu des pas de foi et même des sauts de foi. Parfois, il faut vraiment se donner aussi les moyens. Et le théologien Richard Rohr a dit la chose suivante, « L'opposé de la foi n'est pas le doute, l'opposé de la foi est le contrôle. » On a envie de contrôler, de savoir ce qui vient. Mais à un moment donné, il faut aussi y aller. À un moment donné, il faut prendre des risques, se lancer dans ce que Dieu a mis en nous, en lui faisant confiance. Il a dit que Sarah a cru la promesse, même si elle n'avait plus l'âge physiquement pour tomber enceinte. Mais il a dit dans Hébreux 11:11, Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. C'est quand elle a cru, Dieu l'a rendue capable. Pourtant, elle était très vieille, il s'est dit. Mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Elle a cru, elle est rentrée dans sa destinée aussi, d'être cette mère avec Abraham, d'une multitude. Il est mis que Joseph a cru Dieu, dans Hébreux 11, à tel point qu'à la fin de sa vie, alors qu'il devait penser. Imaginez, à la fin de sa vie, Joseph, il va dire au moins, mais il a réussi son appel, celui-là. Il a été comme premier ministre de la plus grande puissance mondiale du moment, c'est pas rien. Lui, il a pu être utilisé par Dieu pour sauver de la famine sa propre famille et finalement tout un peuple. Il pouvait croire qu'il avait vraiment été dans son appel, mais il va croire au-delà encore de son appel et de sa destinée, qu'il n'a pas juste sauvé un peuple, mais ça va contribuer au fait que ce peuple-là, qu'il a sauvé de la famine à ce moment-là, va pouvoir rentrer dans son pays promis futur et devenir un peuple avec un terrain, un pays. Et il dit à ses descendants, il dit, mais quand le peuple quittera l'Égypte dans le futur, prenez avec vous mes ossements, parce que je veux y être aussi, dans ce pays promis. Il y croit, mais jusqu'au bout. Et lui, il est juste un maillon où il accomplit une destinée, mais qui est plus grande que lui. Sa destinée, ce n'était pas juste sauver son peuple de la famine, même s'il l'a, c'était un appel incroyable, génial qu'il a fait. Mais il avait déjà d'avance l'histoire du peuple qui allait être libéré par Moïse 400 ans plus tard. Moïse a pris les ossements de Joseph avec, quand ils ont quitté l'Égypte. Quelle foi et quelle vue pour le futur. Un appel qui va au-delà de notre propre vie. Et la foi de Joseph, elle est juste phénoménale. Vraiment. Et entrer dans son appel, c'est plus que trois points pour comment avoir du succès dans la vie. On est heureux parce que Joseph, il a eu du succès. Mais son appel, il allait au-delà. C'est un appel qui s'est poursuivi, même quand il n'était plus là. Et c'est John Bevere qui dit que ton appel est plus grand que toi. Il concerne les gens pour qui tu as appelé à avoir un impact. Et je crois qu'entrer dans son appel, sa destinée, c'est pas juste être heureux ou réussir dans sa destinée ou être dans la réussite spirituelle. Mais vraiment, ça va au-delà. Et simplement de rentrer dans ce que Dieu nous demande, qui a un plan plus grand que le nôtre. Et comme dit l'auteur du livre, aux Hébreux, verset 32, il dit, mais qu'est-ce que je peux encore dire? Le temps va me manquer, comme moi ce matin, pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David et Samuel et des prophètes. C'est des hommes et des hommes et des femmes qui ont une foi qui leur a permis de rentrer vraiment dans leur appel. Pas juste la foi au bon Dieu, mais ce type de foi qui permet de prendre des risques puis d'aller là. Comme Rahab, la prostituée, dont il est question dans Hébreux 11, elle a sauvé Josué et Caleb, elle a eu la foi qu'elle allait être épargnée plus tard. Il leur a juste dit, mets un petit signe, une corde rouge à ta fenêtre. Et quand ils sont venus, et puis que Jéricho a été détruit, il est resté juste ce pan de muraille de sa maison à elle. Elle a été sauvée, mais elle a contribué par sa vie à sauver Josué et Caleb, qui étaient poursuivis, les laissant s'enfiler, mais elle a aussi permis au peuple de s'emparer du pays le jour venu. Par la foi, elle est entrée dans son appel de participante à la conquête du pays, directement, participante à l'accomplissement des promesses faites à Abraham, d'avoir ce pays de Canaan, participante à la promesse d'appel sur Moïse, et puis Josué, libérer le peuple, victoire sur les géants et d'avoir leur propre pays. Cette petite foi, cette femme, c'est fou. Et plus fort que ça, elle est même devenue participante au plan de salut de l'humanité, vu qu'elle est même dans la généalogie de Jésus. Elle fait même partie de ça. Elle est rentrée dans sa destinée et dans son appel en prenant des risques. Elle accueille Josué et Caleb. Elle leur a permis vraiment que tout ça aussi s'accomplisse. Et la foi les a fait entrer vraiment ces personnes dont on vient de voir dans leur appel, leur propre appel. Waouh, comme dirait Blaise, waouh, waouh, waouh. Mais comme c'est rare, Joseph, Noé, c'est ça qui va nous faire vraiment devenir participants à cet appel. C'est la foi, la prise de risque de croire dans l'accomplissement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va agir. C'est pas Noé qui a dû créer des digues, un barrage pour que l'eau monte enfin. C'est pas ça. C'est la pluie est venue, Rahab aussi. C'est pas elle qui a dû mettre des poutres de soutènement pour faire tenir sa maison quand tout allait être détruit. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a agi. Et ça, c'était la citation d'avant. Entrer dans son appel. Mais on réalise aujourd'hui que pour entrer dans son appel, il faut, comme on a dit là, il y a un mois, l'important, c'est pas de faire, mais c'est de poser notre tête sur le torse de Dieu, d'écouter son cœur, d'être son ami. Mais j'aimerais dire aussi aujourd'hui un peu la suite. On réalise que pour entrer dans son appel, il faut aussi une dose de foi qui nous permet de faire ce saut, un peu comme l'aigle qui s'élance du rocher. Et peut-être aussi comme ce parapente, comme ce parapente, c'est l'image d'après, qui, à un moment donné, il court dans le vide. C'est pas tout à coup un vent soudain qui vient puis qui le soulève, ça peut arriver. Mais il court, ça descend tout à coup, il s'élance, il y va. Il perd le contrôle avec le sol et il prend de la hauteur parce que le Seigneur est fidèle. Quand on s'élance dans ce qu'il met dans nos cœurs, il nous porte. Et j'ai bientôt terminé, mais ça me rappelle vraiment, quand avec Diane, je ne vais pas raconter beaucoup toute l'histoire, mais quand on a entendu Dieu nous parler pour ce projet d'église, d'une façon assez claire, on en a déjà parlé ici, mais à un moment donné, on a préparé un message WhatsApp pour dire qu'on allait se voir une première fois, qu'on avait loué une petite salle, puis qu'on allait prier pour un projet d'église que Dieu avait mis dans notre cœur. On en était convaincus, on sentait que c'était juste, mais on a préparé le message, puis avant de presser sur envoyer, je dis à Diane, on le fait. Quand tu presses, t'es lancé. C'est comme celui qui se lance. Tu ne peux pas juste après dire « Ah, mais je reviens vite en arrière sur la montagne. » C'est parti. Tu t'es lancé. Et tu ne sais pas ce qu'il arrivera dans un mois, dans une année. Tu ne sais pas. Tu perds le contrôle. Mais tu vas dans ce que Dieu t'a demandé, de ce qui vibre en toi. Et c'est ça que Dieu désire mettre en nous, cet élan d'oser. Et c'est George Deakin qui a dit qu'une vision sans tâche fait un visionnaire. Une tâche sans vision est une corvée. Et une vision avec une tâche fait un missionnaire. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'une vision sans une action, ben on reste des visionnaires dans le sens où on reste peut-être juste des rêveurs qui rêvent. Et si on fait les choses, mais sans vision, sans savoir pourquoi on les fait, on est juste un serviteur qui s'épuise et qui ne sait pas pourquoi il fait les choses. Mais si on a une vision et qu'on se met en action, là on est dans notre mission, là on devient missionnaire dans le sens qu'on rentre dans notre appel. On accomplit sa mission. Et la boxe, c'est pas mon sport préféré. On comprend pas pourquoi il se tape dessus des fois. Et si le boxeur, il reste toute sa vie dans sa cave en train de taper dans son punching ball, il va jamais rien accomplir. À un moment donné, il va devoir prendre le risque. Il va devoir aller monter dans un ring au risque de perdre. Mais c'est aussi comme ça qu'il va avoir des victoires. Et je crois que pour rentrer dans son appel, il faut prendre le risque. Oui, aussi de se ramasser des coups. Il faut prendre le risque aussi d'échouer. Mais c'est comme ça qu'on va devenir, comme cette liste d'hommes et de femmes dans Hébreux 11, des héros de la foi. Et parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont eu la foi, ils sont vraiment rentrés dans leur appel et leur destinée. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment simplement se laisser booster et titiller par le Saint-Esprit. Parce que comme on a vu, ça, notre nature humaine, ça vient, on est tellement vite encerclé, envahi, assiégé par plein de choses, où finalement il y a tellement d'arbres, que cet avion ne va plus jamais décoller. Ou même si le parapentiste se trouve au milieu d'une forêt, il n'arrivera pas non plus. Il faut avoir un peu de l'espace, prendre de l'élan et y aller. Et Saint-Esprit, je te prie ce matin que tu viennes nous parler. On n'a pas envie de faire pour faire. Comme on a vu il y a un mois, on a envie de tes amis avant toute chose. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes aussi cet élan, cette audace, cette foi pour se lever et aller de l'avant en étant déterminé, en étant intentionnel. Seigneur, je ne veux pas juste lire ma vie et voir ce qui se passe, mais je veux l'écrire avec toi. Je veux l'écrire avec toi et écrire les chapitres que tu as prévus. Ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été conçu, ce pourquoi j'ai été le vainqueur dans une course de millions de spermatozoïdes comme toi. Chacun ici, on a tous gagné une course pour qu'on en a gagné une autre aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie que tu révèles en nous, Seigneur, ce que tu as envie de faire au travers de nous. Il y a déjà plein de choses que tu me demandes à tous. Mais aussi peut-être des choses spécifiques. Et je te prie, donne-nous ce courage, cette audace et cette foi d'aller de l'avant. Amen.